BFM Business. 9h, 9h30. Good Morning Market. Étienne Brack.
C'est parti pour Good Morning Market avec en plateau François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner ce matin en compagnie de Fabien Bossy, chef économiste France chez Société Générale CIB. Bonjour Fabien Bossy. Merci également d'être là ce matin. Ça tombe bien, vous êtes chef économiste France, vous allez un petit peu pouvoir quand même nous éclairer sur la situation française. Et puis dans un instant, on parlera bien sûr de la BCE, l'INSEE qui ne voit plus que 0,4% de croissance cette année. Lors de sa dernière estimation, c'était 0,7%. Est-ce qu'on prend un petit peu la route de la récession ou non, il faut s'attendre à un rebond en 2027?
Alors la route de la récession, on ne la prend pas, à vrai dire. Les choses vont aller en s'améliorant. Il faut rappeler qu'on avait commencé l'année avec un premier trimestre en croissance négative, une croissance 0 au T2, et maintenant l'INSEE voit une croissance à 0,1 au T3 et à 0,2 au T4. Bon, il faut faire un petit peu la part des choses. Il y a beaucoup de volatilité dans ces chiffres trimestriels. Et le chiffre négatif du T1 exagérait un petit peu la situation. Et au final, ce qu'on a, c'est quand même une situation économique qui reste sur ces tendances de ces dernières années, avec une demande domestique privée, notamment à tonnes. Mais c'est le cas depuis 4-5 ans maintenant. La croissance avait été un peu flattée par des chiffres, notamment de demande publique. La demande publique se retourne cette année avec le cycle des investissements locaux. C'est pas une surprise, ça arrive à chaque fois après les élections municipales. À cela, il faut ajouter les problèmes de la canicule du secteur agricole. Donc la situation est effectivement pas reluisante, mais il n'y a pas vraiment de changement de tendance massif comparé aux années précédentes.
Alors quand on regarde la réaction sur la partie action, elle est négligeable, François Meunier, dans le sens où les entreprises du CAC 40 sont internationales, elles sont présentes à l'export. Comment aujourd'hui vous regardez la situation française, sachant qu'on parlera de la BCE dans un instant? La BCE vous dit qu'on regarde au niveau européen, on n'est pas si inquiet que ça, l'économie est résiliente.
Oui, mais c'est là où peut-être ça pique. On a vu cette semaine quand même la BCE qui a revu à la hausse, elle, sa prévision de croissance pour l'ensemble des pays de la zone euro, alors que l'INSEE revoit à la baisse sa prévision de croissance pour notre pays. Donc on montre quand même qu'il y a un décrochage. En tout cas, on n'arrive pas à suivre tout à fait les mouvements de nos amis et de nos voisins. On va avoir probablement dans les heures qui viennent une révision, une dégradation de notre objectif de déficit. On visait 5, ce sera plus que 5. Est-ce que ce sera 5,2%, 5,4%, alors que nos voisins semblent quand même plus sérieux? Donc nos voisins, notamment italiens, vont être aux alentours des 3%. Donc on est là aussi sur une trajectoire budgétaire qui est compliquée. Donc on a en relatif une situation qui peut conduire les investisseurs à sous-pondérer les actions françaises par rapport aux poches qu'ils pourraient avoir sur les autres zones géographiques. Et on l'a vu cet été, Bank of America a montré dans son enquête que les gérants européens étaient globalement sous-pondérés en actions françaises. Donc vous avez un problème de croissance, vous avez un problème de déficit et vous n'avez pas de solution, en tout cas pas de réforme prévue, en tout cas pas avant l'élection présidentielle. Donc ce triptyque fait que aujourd'hui les actions françaises en relatif, sont quand même délaissés. Et on le voit sur le comportement du marché depuis le début de l'année. C'est pas en France qu'on trouve les parcours les plus sympathiques, puisque le CAC 40 est en retard par rapport aux indices européens, par rapport aux indices américains. Mais il y a toujours des opportunités. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de chercher. Mais globalement, il faut reconnaître qu'on est quand même dans une phase difficile, même si le mouvement de désaffection pour les actifs français, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, c'est là qu'on a vu qu'il y avait un décrochage, une sorte de prime de risque qui a été appliquée aux actions, mais qu'on retrouve aussi sur le marché obligataire, avec un écart de taux du 10 ans français par rapport au 10 ans allemand, qui a tendance à se creuser sans devenir dramatique, sans devenir vraiment trop préoccupant, mais on voit que tout doucement, mais sûrement, il y a un écart qui se creuse, d'autant que nos amis allemands, ça y est, leur plan de relance commence à porter leurs fruits. Donc eux, ils sont dans une phase d'accélération, et nous, on a du mal à suivre.
Le 10 ans français est ce matin à 4,44. C'est une première depuis 2008, Fabien Bossy. Si on dézoome un petit peu, alors je ne vais pas aller trop loin, jusqu'au taux négatif d'il y a 5-6 ans, juste sur 2-3 mois, on était fin juillet à 3,6%. 4% au milieu du mois d'août, et là on se retrouve à 4,44. Est-ce que aujourd'hui, quand vous voyez le prix de notre dette, ça vous inquiète? On est quand même sur une croissance fulgurante.
Alors, le mouvement, effectivement, hein, si vous prenez la tendance des derniers mois et que vous prolongez le trait, évidemment, on va vraiment dans une situation un peu compliquée si vraiment on prolonge le trait durant encore 6 mois, 1 an. Après, il faut aussi mettre les choses un petit peu en relatif. Le mouvement de hausse des taux, c'est quelque chose qui a commencé depuis 2022. Il faut rappeler qu'en 2022, le mouvement avait été beaucoup plus violent que ce qu'on observe ces derniers mois. On avait pris 300 points de base sur les taux en une année. Pour l'instant, on est sur un mouvement de encore moins de 100 points de base en une année. C'est un mouvement qu'il faut surveiller, qui a des conséquences nettes sur la trajectoire des finances publiques. En tant que choc économique seul, on reste d'un ordre de grandeur en dessous de ce qu'on a connu en 2022. Mais clairement, ça dit quelque chose de la situation française, mais ça dit avant tout quelque chose de la situation mondiale, parce que cette hausse des taux français, ça reflète avant tout une hausse des taux mondiale dans un contexte d'activité qui s'est révélée assez résiliente au conflit au Moyen-Orient et à une inflation qui est élevée et au-dessus de la cible, voire même nettement au-dessus de la cible en zone euro, mais aussi et surtout aux États-Unis.
Hier, la BCE a donc décidé de relever ses taux, comme attendu, pour la simple et bonne raison qu'elle voit plus d'inflation, mais également plus de croissance. C'est peut-être un petit peu la bonne nouvelle. Elle voit 0,9% de croissance cette année dans la zone euro contre 0,8% lors de sa précédente estimation. Et puis une nette accélération l'an prochain à 1,4%. Alors on va mettre de côté le cas français où c'est un petit peu la double peine, hein, vous venez de le souligner, moins de croissance, plus d'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, la BCE doit encore relever ses taux? Quelles sont vos prévisions chez Société Générale?
Alors, c'est vrai qu'il faut être tout à fait objectif. Hein, lorsqu'on revoit à la hausse la croissance et l'inflation, et que l'inflation est revue à la hausse et était déjà au-dessus de la cible, ben, tout ça pointe vers plus de hausse de taux. Donc, on voit le mouvement des hausses de taux se poursuivre. Mais toutefois, on est assez prudent sur l'ampleur des hausses de taux qu'il faudra encore réaliser, parce que on est quand même dans une situation un peu inconfortable. Ces dernières semaines, les mouvements de taux ont été accompagnés par une forte hausse des prix de l'énergie. C'est un choc inflationniste, bien sûr, mais ça va aussi raviver des craintes sur l'activité. Bon, ces craintes sur l'activité, finalement, ce n'était pas matérialisé après la hausse de juin. On a passé un été quand même relativement rassurant, mais vu la hausse de taux, vu les hausses des prix de l'énergie récentes et des hausses de prix qui maintenant touche aussi le gaz et l'électricité, donc le cœur de l'économie domestique européenne, ça va avoir des conséquences un petit peu négatives pour l'activité. Donc ça, il faut tempérer un petit peu les attentes de hausse de taux. Là, pour rentrer vraiment dans un cycle restrictif, il faudrait avoir des preuves d'effet de second tour avec des accélérations sur les hausses de salaire. Pour l'instant, Christine Lagarde l'a encore souligné hier, on n'a pas vraiment de preuve d'une accélération des hausses de salaire et pas vraiment de raison de rentrer dans un rapide cycle de resserrement monétaire. Mais en attendant, il faut continuer sur cette voie un peu prudente qu'a pris la BCE en montant lentement les taux et en attendant de voir, tant que l'activité tient, tant que l'inflation reste au-dessus de la cible, la direction est évidente.
Le prix du pétrole est ce matin à 105 $, c'est le prix pour un baril de Brent, le cours du gaz, le TTF, c'est la référence en Europe, 80 € pour 1 mégawattheure. C'est quoi là aujourd'hui le sujet de fin d'année, François Monnier? Est-ce que c'est encore de hausse de taux pour la BCE, pour la Fed, hein, on verra l'inflation américaine cet après-midi à 14h30. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'incertitudes hein, sur ces dernières semaines de 2026 avec des investisseurs qui posent un petit peu le crayon. Il y a de l'attentisme partout, hein, même dans les entreprises.
Oui, en fait, il y a deux grands rendez-vous à pas rater d'ici la fin d'année. D'abord, c'est la semaine prochaine avec l'intervention de la Fed. Donc, on a un nouveau patron de la Réserve fédérale. Là, on va voir s'il prend vraiment la main et la mesure de son travail. On l'a pas encore vraiment vu à l'œuvre. D'autant qu'il était, sa stratégie était un petit peu polluée par les déclarations de Donald Trump et par les actions du Trésor américain. Il faut se rappeler quand même que cet été, on a eu un Trésor américain qui a essayé de montrer qu'il pouvait piloter les taux à 10 ans aux États-Unis en essayant de manipuler avec les taux à court terme, les taux à long terme. Il a échoué. Il a essayé de relever maintenant son intervention. On parle de 6 milliards sur une dette de 40 000 milliards de dollars. Donc, on a montré que le Trésor était impuissant et que finalement, le pouvoir, normalement, il est à la Fed, il est à la Banque Centrale Américaine. Et là, on va voir si le nouveau patron de la Fed bien, rassure, montre que c'est vraiment le pilote et que on peut avoir confiance dans une Fed indépendante. Si il montre qu'il a, avec simplement une petite hausse de taux en septembre, on aura plus d'indications cet après-midi avec des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Mais si on montre que vraiment, c'est un vrai guide des marchés, peut-être un pompier, ça va peut-être rassurer tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ben, ça va être la publication des résultats des entreprises. On a eu un été fantastique. Les entreprises ont continué d'investir, ont continué d'innover. La croissance des bénéfices était au rendez-vous. On a eu, depuis le début de l'année, alors qu'il y a la guerre, alors qu'il y a l'inflation, alors qu'il y a des problèmes politiques, eh bien, on a eu sans cesse des révisions à la hausse de la croissance bénéficiaire. Là, on vise quand même une progression de près de 33% des profits au sein du S&P 500. En Europe, c'est moins, mais c'est plus que ce qui était prévu au début de l'année. On est sur une tendance à l'amélioration de 18% des profits des entreprises. Et donc, on est vraiment sur une très bonne dynamique. Maintenant, il va falloir confirmer que cette dynamique, elle est toujours là. Et ça, on va découvrir ça avec la saison des publications des comptes du troisième trimestre qui vont commencer à partir de mi-octobre.
Dernier exemple en date, hier soir, Oracle, hein, qui publie des résultats au-delà des attentes. Le titre était à plus 5. C'était vraiment un test, hein, dans le sens où depuis plus d'un an maintenant, Oracle attire toutes les attentions. Parce qu'il y a des craintes sur la monétisation de l'IA, surtout que c'est une société qui s'est beaucoup endettée.
Oui, puis c'est dans les hyperscalers, c'est l'entreprise la plus fragile. Hein, c'est l'entreprise qui a le bilan le plus dégradé. Elle s'est mise à investir un peu tardivement par rapport aux autres grands acteurs américains. Et donc, si jamais ça craquait du côté des ce qu'on appelle les hyperscalers, de ceux qui gèrent ces data centers et qui veulent se développer dans le cloud, ben c'est probablement Oracle qui est le maillon faible. Donc de voir que Oracle rassure, ben c'est tout l'écosystème qui en profite.
Oracle qui lève massivement des capitaux, comme l'ensemble des hyperscalers, ça fait une concurrence aux États. Fabien Bossy, ça explique aussi pourquoi on a des taux qui sont sur les niveaux actuels. Le 10 ans américain frôle les 5% ce matin, nous sommes à 4,94. Le 30 ans américain est sur des plus hauts de 2001 à 5,3%. L'ensemble des taux longs sont sur des plus hauts. On l'a encore vu la semaine dernière avec le Japon, au-delà des 3%. En ce qui concerne l'Europe, la France, est-ce qu'on a encore des marges de manœuvre? Est-ce qu'on ne risque pas un petit peu de se faire étouffer par cette remontée des taux longs qui, à court terme, n'a pas l'air de vouloir s'arrêter?
C'est clair qu'on ne va pas pouvoir maintenir des niveaux de déficit aussi élevés. En France, mais en général dans le monde, les États-Unis ont des déficits, lorsqu'on prend le gouvernement dans son ensemble, le déficit américain, c'est proche des 8-9%, hein, lorsqu'on inclut non seulement le gouvernement fédéral, mais l'ensemble des administrations locales. Il y a un besoin de consolidation fiscale qui est mondial. La France détonne un peu au sein de la zone euro, pas beaucoup plus que d'habitude. Hein. D'ailleurs, la France a toujours dépensé plus que les autres. On est à nouveau parmi les derniers de la classe. Pas vraiment, malheureusement, de nouveautés de ce point de vue-là, mais il va falloir faire effectivement de la consolidation fiscale, parce que comme vous l'avez dit, au début après la crise financière, on était un peu dans une phase d'excès d'épargne, maintenant on est dans une phase d'excès d'emprunt, et clairement il y a trop d'obligations qui sont émises en ce moment.
L'écart de taux entre la France et l'Allemagne est au-delà des 90 points. Quelles sont vos projections? Parce que j'imagine que vous mettez un petit peu à jour vos prévisions au vu de la croissance, de l'inflation, des déficits publics, des incertitudes politiques. Est-ce que vous voyez un spread aller à 100, 110, 120 éventuellement? C'est une possibilité ou pour l'instant c'est un risque que vous écartez?
Alors un spread à 100, 110, vu le mouvement des dernières semaines, comme les choses sont allées tellement vite qu'on peut, on peut évidemment pas l'écarter. Là, ce serait, on est à quelques séances un petit peu de turbulence et on peut y arriver. Toutefois, il faut aussi un peu remettre les choses dans leur contexte. On n'a pas eu vraiment de nouvelles du côté français qui pourraient expliquer vraiment une dégradation de la situation française. Le déficit français est au-delà des 5%, on le sait. Il risque de rester proche des 5% l'année prochaine. Là aussi, il n'y a pas de nouvelles. Tous les investisseurs étaient bien au courant qu'il ne fallait pas attendre de grands changements de politique fiscale avant les prochaines élections. Et côté croissance, les révisions à la baisse de l'INSEE et probablement du gouvernement, là aussi, ne sont pas une surprise pour les investisseurs. Les chiffres de croissance étaient connus. Donc, il n'y a pas de raison non plus de voir une nette dégradation de la France seule. Après, si des facteurs globaux sont en jeu, là, la France pourra bien entendu pas y échapper.
Le mot de la fin, François Monnier, comment vous accompagnez vos lecteurs en ce moment? On a déjà parlé souvent sur ce plateau. Hein. C'est vrai que la France a une part de plus en plus petite dans la part des portefeuilles. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des opportunités. Où sont les opportunités pour vous aujourd'hui?
Les opportunités, c'est plutôt de profiter des trous d'air. On va il n'y a pas de raison non plus de, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il n'y a pas non plus de raison de s'alarmer, voire de paniquer ou de s'inquiéter outre mesure. En revanche, on va, et ce serait logique, naturel, d'avoir plus de volatilité sur les marchés. Donc on va avoir des séances peut-être un petit peu difficiles, et c'est probablement dans ces séances difficiles qu'il faudra garder le cap et saisir des opportunités. On en a même vu au niveau mondial, la tech, ça s'est mal passé aux États-Unis au mois de juillet, c'était plutôt des opportunités d'achat. Donc on va essayer de trouver les moments un peu difficiles où il y a un peu de stress pour rentrer sur des beaux actifs, des belles valeurs. Et donc, c'est ça qu'il faut aujourd'hui surveiller.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin en plateau. François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, et Fabien Bossy, chef économiste France de Société Générale, CIB.